Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, donc nous avançons dans ce beau traité sur les fins dernières, dernier traité de la somme théologique de Saint Thomas. Donc dans le supplément, je vous rappelle que ce traité couvre les questions 69 à 99. Nous en sommes à la question 1 des appendices préparée par Saint Thomas. Donc on trouve complètement en fin du traité ou après la question 70 selon les éditions. Donc dans l'édition que je suis, c'est la question 70-2 sur le purgatoire. Alors deux choses sont de foi concernant le purgatoire. D'abord l'existence du purgatoire qui est de foi. Et deuxièmement, le fait qu'on peut aider les âmes du purgatoire par voie de suffrage, c'est-à-dire en priant pour elles. Alors nous allons suivre les huit articles de cette question 70-2. D'abord, est-ce qu'il y a un purgatoire après cette vie? C'est un article important. Donc, Saint Thomas va citer le livre des Maccabées, qui est la référence de l'Ancien Testament sur le purgatoire. C'est une sainte et salutaire pensée que de prier pour les défunts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Donc le purgatoire existe. On trouve aussi chez tous les pères beaucoup de passages concernant le purgatoire. Je vous cite ici Saint Grégoire de Nice. Celui qui est dans l'amitié de Christ et qui n'a pas achevé de se purifier de ses péchés en ce monde en sera purifié au sortir de cette vie dans les flammes du purgatoire. Donc il y a un lieu de purification, surtout pour tous ceux qui sont morts en état de grâce, puisque seuls les gens qui meurent en état de grâce peuvent aller au purgatoire, mais qui n'ont pas eu le temps de faire suffisamment pénitence dans leur vie, qui n'ont pas eu le temps donc de se purifier. N'oubliez pas que même si le péché est pardonné par exemple par la confession, l'absolution sacerdotale, il reste une peine temporelle des péchés déjà pardonnés à payer, ce qu'on appelle la peine du purgatoire. Voilà ce que dit Saint Thomas, une très belle phrase. S'il est vrai que la contrition efface la faute, mais ne remet pas totalement la peine du péché, s'il est vrai que les péchés mortels peuvent être pardonnés sans que les péchés véniels le soient toujours en même temps, s'il est vrai que la justice de Dieu exige qu'une peine proportionnée rétablisse l'ordre bouleversé par le péché, il faut conclure que celui qui meurt, contrit et absout de ses péchés, mais sans avoir pleinement satisfait pour eux, doit être puni dans l'autre vie. Donc, Dieu pardonne le péché, mais il faut, puisque le péché est une révolte, en quelque sorte, contre l'autorité divine, eh bien, même si le péché est pardonné, il faut rattraper cette révolte par un acte d'humilité. Alors, qui peut se faire ici-bas? C'est beaucoup plus rentable de le faire ici-bas. On enlève les peines du purgatoire beaucoup plus facilement ici-bas. Une fois qu'on est au purgatoire, c'est trop tard. On n'a plus qu'à, de façon purement passive, à supporter la purification imposée par le bon Dieu. Mais ici-bas, on peut éviter une grande partie des peines du purgatoire. Donc, Saint Thomas rappelle les grandes vérités de foi, que la contrition efface la faute, mais ne remet pas totalement la peine due au péché, d'où le purgatoire. Les péchés mortels, quand ils sont partis, il peut rester des péchés véniels qui soient encore là, inscrits dans l'âme par manque d'amour du bon Dieu, tout simplement parce qu'on a, par exemple, fait une confession simplement avec une contrition imparfaite à cause de ce manque de degré de charité important. Eh bien, le bon Dieu souhaite et veut pour nous que nous fassions encore pénitence pour achever de purifier la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. N'oublions pas encore une fois, c'est ce que dit saint Thomas, c'est très important à comprendre, que le péché entraîne un désordre. Hein. L'ordre est bouleversé par le péché. Donc il faut rattraper ce désordre. Et on rattrape ce désordre par l'humilité, je l'ai déjà dit, et aussi par l'obéissance à la volonté divine, par une purification passive au purgatoire. Une fois qu'une personne est au purgatoire, une âme est au purgatoire, elle souffre passivement. On peut prier pour les âmes du purgatoire, mais l'âme au purgatoire, par elle-même, ne peut rien faire pour elle, elle est dans un état passif. Saint Thomas explique la raison, un défaut quelconque empêche le bien d'être parfait, mais la présence d'un certain bien n'empêche pas le mal d'être parfait, puisqu'au contraire, c'est la condition même de son existence. Alors, celui donc, dit Saint Thomas, c'est la phrase importante, qui meurt en état de péché mortel n'a droit à aucune récompense. Mais celui qui meurt en état de grâce peut avoir à subir une peine, car la charité ne détruit pas tout le mal qui se trouve dans l'âme, mais seulement le mal qui lui est incompatible. Hein? Dieu étant la pureté même, seul un être parfaitement pur peut apparaître devant Dieu et jouir du paradis. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si les âmes qui sont purifiées sont dans le même lieu, c'est-à-dire que le purgatoire est dans le même lieu que l'endroit des damnés, c'est-à-dire l'enfer. Alors, cette question est controversée parmi les théologiens. Je vous donne la réponse de saint Thomas. Il va citer saint Grégoire. Ainsi que dans le même feu, dit saint Grégoire le Grand, l'or brille et la paille fume, ainsi par le même feu, le pécheur est brûlé et l'élu purifié. Pécheur est brûlé, c'est l'enfer, l'élu purifié, c'est le purgatoire. Le purgatoire et l'enfer ont donc même feu et même lieu. Donc c'est l'opinion de saint Thomas, qui n'est pas partagée par tout le monde. D'autres théologiens, d'autres pères pensent que ce sont deux lieux différents. Hein. Les âmes du purgatoire, les âmes des patriarches plus exactement, avant la venue du Christ, occupaient un lieu plus digne que le purgatoire, puisque la peine d'essence n'existait pas. On a déjà expliqué, c'est les limbes des patriarches. Cependant, ce lieu était le même que l'enfer au tout proche. Pensaient certains pères. Et c'est la raison pour laquelle il pense lui-même, enfin saint Thomas pense que le purgatoire et l'enfer sont dans le même lieu, avec une différence essentielle, c'est que les peines du purgatoire sont moins fortes, bien sûr, que les peines de l'enfer, au niveau des peines du feu, parce qu'il n'y a pas de peine du damné dans le purgatoire. La peine du damné, c'est la séparation définitive avec Dieu, qui n'a pas lieu au purgatoire, puisque les gens qui sont au purgatoire, les âmes qui sont au purgatoire, savent qu'elles vont un jour sortir du purgatoire, donc elles ont l'espérance qui n'existe pas du tout dans l'âme des damnés. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Cependant, certains pères pensent qu'il y a une peine du feu au purgatoire. Donc c'est une peine mitigée peut-être par rapport à la peine de l'enfer, il y a une peine du feu mais sans peine du damné. Alors qu'en enfer il y a peine du feu, peine d'essence donc, plus peine des damnés, du damné. Damné c'est D-A-M, du mot damnation. Alors est-ce que les souffrances du purgatoire surpassent toutes celles d'ici-bas? C'est une question intéressante. Pour répondre à l'objection que font beaucoup de gens, oh ben sous la baie, c'est pas très grave si j'ai encore des péchés véniels de façon habituelle dans mon âme, ben, je paierai tout ça au purgatoire. Peut-être que vous réalisez pas exactement ce que sont les peines du purgatoire. Hein. La souffrance de l'âme séparée est supérieure à toute souffrance du corps. Hein. Alors saint Thomas répond en disant qu'il y a deux peines au purgatoire. Il parle de la peine du damné, mais c'est l'ajournement de la vue de Dieu, donc c'est pas la peine du damné au sens propre. La peine du damné, c'est l'ajournement. Ce n'est pas l'ajournement, c'est la suppression de la vue de Dieu de façon définitive. Alors, encore une fois, au purgatoire, il y a une peine du damné dans le sens qu'on ne voit pas Dieu, donc on est dans une salle d'attente, si vous voulez, en train, avant de voir Dieu, mais ce n'est pas une peine du dent au sens propre. Il y a aussi une peine du sens qui est un tourment infligé par le feu. Le moindre degré de l'une comme de l'autre, donc la peine du dent mitigée ou la peine du feu, surpasse la peine la plus grande que l'on puisse endurer ici-bas. Et beaucoup de saints, de pères de l'Église et de grands docteurs qui en ont parlé disent tous la même chose. Ils disent que une seconde passée au purgatoire est une souffrance bien plus grande que toutes les souffrances qu'on puisse supporter ici-bas sur la terre. Hein? Évidemment, ce sont des choses qui sont difficile à comprendre pour nous, voire même impossible à comprendre ici-bas, parce qu'il y a une partie mystérieuse là-dedans. Alors, est-ce que ces peines du purgatoire sont volontaires? Ben, la réponse est non. Les peines du purgatoire ne sont pas volontaires, parce que c'est un acte de purification, encore une fois passif, voulu par Dieu. Voilà ce que dit saint Thomas. Les souffrances des âmes du purgatoire ne sont pas volontaires. Cette peine du purgatoire, la volonté ne la recherche pas, elle voudrait en être délivrée, mais elle la supporte, et pour autant, cette offrance est dite volontaire dans ce sens-là, dans ce sens que les souffrances du purgatoire sont volontaires. Alors, est-ce que les âmes du purgatoire sont tourmentées par les démons? Question intéressante. Et la réponse est négative. Alors qu'en enfer, les âmes qui sont en enfer sont tourmentés par les démons. Mais il serait injuste que celui qui a triomphé d'un ennemi lui fût soumis après sa victoire. Les âmes du purgatoire, si elles ont quitté cette vie en état de grâce, l'ont fait après avoir triomphé du démon. C'est pour ça qu'elles sont mortes en état, que ces personnes sont mortes en état de grâce. Donc le démon a perdu tout pouvoir sur les âmes qui meurent en état de grâce. Et donc, même si ces âmes sont au purgatoire pour se purifier de leurs péchés passés, le démon n'a plus pouvoir sur elles. Donc, les âmes du purgatoire ne sont pas tourmentées par les démons. Article 6. Est-ce que le péché véniel en tant que péché est expié par les souffrances du purgatoire? Et comment saint Thomas vraiment va jusqu'au fond des choses, au dernier détail, pour être sûr qu'on comprenne bien. Alors, voilà la réponse donnée par saint Thomas. Si l'on meurt en état de grâce, le péché véniel est remis dans l'autre monde, il est remis par le feu du purgatoire. Le péché véniel donc est remis dans l'autre monde, pardon, par le feu du purgatoire. En effet, la souffrance qu'il cause, qui est volontaire de la manière expliquée plus haut, reçoit de la grâce le pouvoir d'expier tout péché qui n'est pas incompatible avec la grâce. Puisque l'âme est en état de grâce, si elle est au purgatoire, cette âme n'a donc pas de péché mortel sur la conscience, parce que s'il y avait un péché mortel, l'âme ne serait pas au purgatoire, mais en enfer. Cependant, il y a le péché véniel à expier. Alors, ces flammes du purgatoire libèrent de la peine due au péché. Les souffrances du purgatoire sont plus grandes que toutes les souffrances de ce monde. Il répète ce qu'il a déjà dit. Mais par celle-ci, on peut payer la peine due au péché. Donc, à plus forte raison, on peut payer par les peines du purgatoire les peines dues au péché, péché déjà pardonné. On ne peut pas payer au purgatoire les péchés non pardonnés, les péchés mortels non pardonnés. On peut payer par contre les peines dues au péché. D'une certaine façon, on peut dire que les péchés véniels sont pardonnés, mais ils sont pardonnés justement. Pour prouver notre pardon, il ne faut pas simplement effacer le péché lui-même, il faut aussi effacer la peine temporelle des péchés, même des péchés véniels, et des péchés mortels passés et déjà pardonnés. Alors, saint Thomas continue ses explications. Il y a des péchés véniels qui seront punis plus longtemps que d'autres au purgatoire. C'est pourquoi certaines âmes du purgatoire sont tourmentées plus longtemps dans la mesure où le péché véniel a pénétré davantage dans leurs affections. Ça dépend du jugement de Dieu. C'est Dieu qui juge de savoir quels sont les péchés véniels ou les péchés mortels déjà pardonnés qui vont demander une réparation plus importante. Alors, à la question 71, saint Thomas va s'occuper maintenant du suffrage pour les défunts, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut aider les âmes du purgatoire. Rappelez-vous que, j'ai expliqué ça souvent, mais je réexplique rapidement, qu'il y a trois parties dans l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Dans l'Église catholique, il y a une partie au ciel, ce qu'on appelle l'Église triomphante, des gens qui sont des âmes qui sont déjà dans la gloire du ciel. Il y a une partie ici-bas, on appelle ça l'Église militante, parce que c'est l'Église des soldats. Soldat en latin se dit miles. Et il y a une Église souffrante, qui est l'Église du purgatoire. Et il y a un échange de prières entre ces trois parties de l'Église, si vous voulez, les âmes qui sont au ciel, les âmes de l'Église triomphante, donc peuvent prier pour les âmes de l'Église militante, pour nous ici-bas sur la terre, et aussi peuvent prier pour les âmes du purgatoire. Et nous ici-bas, on peut prier dans l'Église militante, donc on peut prier pour les membres de l'Église souffrante au purgatoire. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et les suffrages pour les défunts sont une conséquence directe du dogme de la communion des saints. Parce qu'il y a la communion des saints, on peut prier les uns pour les autres dans l'Église. Alors, les suffrages d'infidèles peuvent-ils être utiles à quelqu'un d'autre? Donc, c'est la question 71 du supplément, article 1er. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. Tous les fidèles unis par la charité ne font qu'un seul corps qui est l'Église. Et donc, dans un même corps, les membres cèdent les uns des autres. Alors, vous avez quelques belles phrases de saint Thomas, je vous les cite. Nos actes peuvent obtenir, donc, peuvent avoir un double effet, l'acquisition d'un état, par exemple la béatitude par les œuvres méritoires, et l'acquisition de quelque chose d'accessoire, par exemple une récompense accidentelle, la rémission d'une dette. Eh bien, nos actes, c'est la partie importante, peuvent obtenir ce double effet d'une double manière, par mode de mérite et par mode de prière. Ces deux modes diffèrent, parce que le premier, le mode de mérite, repose sur la justice, et le second, par mode de prière, sur la seule libéralité de celui que l'on prie. Donc personne, quand il s'agit d'un état, personne ne peut l'obtenir pour un autre par mode de mérite, en ce sens qu'il est impossible que par mes bonnes œuvres, un autre mérite la vie éternelle, puisque chacun est responsable aussi d'elle-même, bien sûr. En effet, l'état de gloire est accordé à chacun selon sa capacité, selon les dispositions, dit saint Thomas, qui proviennent de ses actes et non de ceux d'autrui. Mais, par mode de prière, à cause de la miséricorde du bon Dieu, on le peut tant que le terme n'est pas atteint. Par exemple, on peut obtenir pour un autre l'état de grâce. Vous pouvez prier pour sortir, obtenir qu'un de vos enfants, qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou, sorte de cet état de péché. Puisque l'efficacité de la prière dépend de la libéralité de Dieu, de sa miséricorde, Dieu que l'on prie, elle peut donc s'étendre à tout ce que la toute-puissance divine peut réaliser en harmonie avec l'ordre providentiel. Je continue avec le texte de saint Thomas. Là, toutes les phrases sont importantes. S'il s'agit de quelque chose d'accessoire à un état, on peut l'obtenir pour un autre, non seulement par mode de prière, mais encore par mode de mérite. Donc, soit en vertu d'une communication dans le principe radical de l'œuvre, qui est la charité pour les œuvres méritoires, de là vient que chacun de ceux qui sont unis ensemble par la charité bénéficie des bonnes œuvres de tous. C'est-à-dire que pour que la communion des saints puisse s'effectuer, eh bien évidemment, le canal par lequel la communion des saints passe, c'est le canal de la charité. Chacun, cependant, selon l'état où il est, bénéficie des bonnes œuvres de tous. C'est ainsi qu'au ciel, chacun des élus se réjouit du bonheur de tous les saints. Ce qu'on appelle donc, encore une fois, la communion des saints. C'est ce que dit ici saint Thomas, je vous lis la phrase. De là vient que chacun de ceux qui sont unis ensemble par la charité bénéficie des bonnes œuvres de tous, cependant, chacun selon l'état où il est. C'est ainsi qu'au ciel, chacun des élus se réjouit du bonheur de tous les autres. C'est ce qu'exprime l'article du symbole. Le symbole, c'est le credo, la communion des saints. Donc je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, résurrection de la chair, la vie éternelle, ainsi soit-il. Donc cette communion des saints permet l'aide des âmes du purgatoire par voie de suffrage. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'est accordée qu'en récompense d'œuvres personnelles. Donc si on l'obtient pour un autre, c'est toujours à la condition qu'il la méritera parce qu'il fera lui-même. Les prières lui valent la grâce, dont le bon usage lui mérite la vie éternelle. Et vous pouvez prier pour que votre enfant adulte sorte du péché mortel, bien sûr, mais dans un certain sens, la prière respecte le libre arbitre de chacun. Et donc, Vous pouvez prier pour que Dieu donne à votre fils les grâces actuelles dont il a besoin pour qu'il puisse sortir du péché mortel, mais il faut aussi que votre fils collabore, coopère à ces grâces. Si votre fils ne veut pas coopérer à ces grâces, eh bien, malheureusement, votre fils ne se sauvera pas, parce que personne ne peut se sauver qui meurt en état de péché mortel. Donc c'est la foi catholique qui nous enseigne que toute personne qui meurt en état de grâce est sauvée, après un temps de purification nécessaire bien sûr au purgatoire pour la plupart d'entre nous, et que toute personne, deuxième dogme, que toute personne qui meurt en état de péché mortel, hélas, tombe en enfer. Donc Dieu peut accorder à une âme qui vit dans le péché mortel ici-bas sur la terre des grâces de conversion, mais une fois que l'âme est morte, encore une fois je vous l'ai déjà expliqué, parce que cette âme n'est plus dans le temps mais dans l'éternité, comme dans l'éternité il n'y a plus de temps, donc plus de moyens de changer, donc une âme qui meurt en état de péché mortel, une fois qu'elle est sortie du temps et dans l'éternité, eh bien elle tombe en enfer immédiatement, et là on ne peut plus rien faire, Dieu ne peut plus rien faire, Dieu ne peut pas sortir, ne veut pas, parce qu'il ne peut pas se contredire lui-même, Dieu ne veut pas sortir une âme de l'enfer et la mettre au paradis, c'est impossible, puisque ce serait une contradiction avec lui-même. Donc il n'est pas contraire à la justice de Dieu que quelqu'un bénéficie des bonnes œuvres de ceux qui lui sont unis par la charité ou des bonnes œuvres faites à son intention. Donc la justice humaine elle-même permet qu'un homme satisfasse à la place d'un autre. Donc, imaginez quelqu'un qui est en prison parce qu'il y a une grosse dette à payer qu'il ne peut pas payer. Ben, quelqu'un de l'extérieur, un de ses amis, pourrait, par exemple, payer cette dette encore due par son ami qui est en prison et le faire sortir ainsi de prison. Alors, est-ce que les morts, donc les âmes du purgatoire, peuvent-elles être aidées par les œuvres des vivants? C'est l'article 71 du supplément, l'article 2. De cette question 71. Donc, saint Thomas répond, je l'ai déjà dit, les suffrages des vivants sont donc utiles aux morts, c'est-à-dire aux âmes du purgatoire, c'est de ça dont il parle. Donc, voilà ce que dit saint Thomas, il donne la raison, le lien de la charité qui unit entre eux les membres de l'Église n'embrasse pas seulement les vivants, mais aussi les morts qui ont quitté ce monde en état de charité. Car celle-ci ne cesse pas avec la vie, la charité ne passera jamais, dit saint Paul. Donc ici-bas, vous pouvez prier d'une part pour les gens qui sont autour de vous, les âmes qui sont autour de vous, surtout les membres de votre famille. Vous pouvez aussi prier pour les âmes du purgatoire, mais ça ne sert à rien de prier pour les gens qui sont au ciel, ils sont déjà au ciel dans la gloire du Père, donc ils n'ont plus besoin de prière. Et ça ne sert malheureusement de rien non plus de prier pour une âme qui est en enfer, parce que c'est trop tard, elle est sortie définitivement de la charité du bon Dieu. Donc, strictement parlant, bien que les âmes qui sont en enfer soient toujours des créatures de Dieu, une âme qui est en enfer est sortie définitivement du cercle de la charité du bon Dieu. Et comme une âme, on peut expliquer de façon plus précise en disant qu'une âme ici-bas sur la terre, qui est dans le péché mortel, est sortie de la charité du bon Dieu, mais elle garde le pouvoir de retourner dans cette charité par un acte de contrition parfaite ou tout simplement par une bonne confession. Mais l'âme d'un damné en enfer est sortie définitivement de la charité du bon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de confessionnal à la porte de l'enfer, hélas, et que l'âme qui est en enfer ne peut plus éliciter, bien sûr, un acte de contrition parfaite. Elle est hors du temps, elle ne peut plus utiliser les grâces du bon Dieu, elle n'a plus l'usage de sa liberté, il n'y a plus de temps pour elle, elle est hors du temps, elle est dans l'éternité. Donc c'est une éternité malheureuse en enfer. C'est pour ça qu'il faut méditer, mes bien chers frères, souvent sur les fins dernières, c'est la meilleure façon de sortir du péché. Quand on pense un petit peu aux conséquences du péché, c'est ça. Souvent, réflexion qu'on entend régulièrement des jeunes qui sont un peu superficiels, qui disent « Oh, monsieur l'abbé, oui, c'est vrai que j'ai l'intention de sortir ce soir, samedi soir, je vais faire sans doute des bêtises en boîte de nuit, mais j'irai me confesser dimanche, demain. » Attention, pour se confesser, il y a un certain nombre de conditions. D'abord, il faut être vivant. Vous pouvez mourir en sortant de la boîte de nuit. C'est un état de péché mortel, pas beaucoup de gens en état de grâce dans une boîte de nuit, donc si vous mourrez en état de péché mortel, c'est l'enfer. Aussi, pour se confesser, deuxième condition, il faut trouver un prêtre. Bon, troisième condition, il faut avoir reçu du bon Dieu une grâce actuelle qui nous fasse regretter ce qu'on a fait comme péché mortel. C'est facile de dire demain je me confesserai, mais demain vous pouvez être mort, demain il pourrait ne pas y avoir de prêtre à votre disposition, et demain le bon Dieu pourrait dire ça suffit, vous êtes trop moqué de moi, donc je ne vous donne pas les grâces actuelles dont vous avez besoin pour aller vous confesser, parce que j'ai décidé en tant que Dieu est plein de miséricorde, il a aussi sa justice, il peut décider que ça suffit, cette personne s'est trop moquée de lui, et donc il ne n'accorde plus de grâce. Oui. Il faut toutefois se garder de croire, dit saint Thomas, que les suffrages des vivants sont capables de faire passer les défunts de l'état de damnation à l'état de béatitude ou réciproquement. Ils peuvent seulement contribuer à la diminution de la peine ou à quelque chose d'analogue, c'est-à-dire d'accessoire à l'état qui est définitif. Donc, les prières des vivants dans l'Église militante, évidemment, ne peuvent pas faire passer quelqu'un qui est au ciel à l'état de damnation, l'enfer, ni faire passer quelqu'un qui est en enfer à l'état du ciel, l'état de salut, encore une fois, parce que ces personnes sont dans hors du temps, sont dans l'éternité. Par contre, les âmes du purgatoire, ici-bas, on peut prier pour elles, parce que les âmes du purgatoire, je vous l'ai déjà expliqué, ne sont pas dans un état d'éternité, mais sont dans le temps. C'est une exception, je vous l'ai déjà expliqué. Le purgatoire est dans le temps. On est condamné à une peine de purgatoire, et une peine de purgatoire qui est limitée dans le temps. Cependant, elles peuvent être très longues. Rappelez-vous, dans les apparitions de Fatima, Lucie qui demande à la très sainte Vierge Marie, qui pose une question sur une jeune fille, une dame qu'elle connaissait, qui était morte dans le village à côté. Elle demande si cette âme est au ciel. La très sainte Vierge Marie de répondre, cette âme est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et c'était en 1917, jusqu'à la fin du monde. Ça laisse rêveur. Évidemment, les modernistes comprennent absolument pas ces choses-là et sont scandalisés quand on leur explique tout ça et vont vous dire c'est un véritable scandale, Dieu est plein de miséricorde et ne peut en aucun cas punir une peine du purgatoire. Par les peines du purgatoire, en plus des peines de l'enfer, une âme qui cherche à monter vers lui. Et il faut bien comprendre que le péché, c'est quelque chose de grave. Le péché étant quelque chose de grave, eh bien, justement, c'est en méditant sur les peines de l'enfer, l'éternité des châtiments de l'enfer, c'est en méditant sur ces châtiments que l'on comprend la gravité du péché. Alors, il faut faire un petit peu attention aux termes qu'on utilise, puisque théologiquement parlant, il est faux de dire que les peines de l'enfer sont éternelles, dans le sens que éternel, ça veut dire pas de début, pas de fin. Or, Dieu seul est éternel. Les peines du purgatoire, les peines de l'enfer ont un début, puisque l'âme en question, qui est en enfer, n'a pas toujours été en enfer. Elle est tombée en enfer au moment de sa mort, puisqu'elle a eu le malheur de mourir un tas de péchés mortels. Donc l'enfer, les peines de l'enfer ont un début, mais pas de fin, strictement parlant, théologiquement parlant. Donc c'est une immortalité, si vous voulez, mais pas une éternité. Cependant, dans la langue française, en général, on utilise le mot éternité. On parle de l'éternité des peines de l'enfer, la peine du damné et la peine des sens. Alors avançons dans ce traité. Donc les suffrages des pécheurs sont-ils utiles aux défunts ? Est-ce que quelqu'un qui est en état de péché, ici-bas sur la terre, donc membre de l'Église militante, est-ce qu'il peut prier pour les âmes du purgatoire ? Et voilà ce que répond saint Thomas. Par rapport au suffrage des pécheurs, ici-bas, il faut distinguer deux choses. L'œuvre qui est opérée, par exemple le sacrifice de la messe ou les sacrements de la religion chrétienne, étant efficace par eux-mêmes, indépendamment de celui qui opère, il s'ensuit que les suffrages de ce genre sont utiles aux défunts, même s'ils viennent d'un pécheur. Et c'est une chose importante. Donc, une âme, même en état de péché, qui par exemple prie le chapelet pour l'âme de son grand-père, qui est peut-être au purgatoire, eh bien le bon Dieu va en tenir compte à cause de la valeur de l'œuvre qui est offerte. Donc, si le pécheur agit en son nom propre, son action ne peut être méritoire ni pour lui-même ni pour autrui. Ses suffrages sont donc dénués de toute valeur, mais s'il peut agir au nom d'un autre. Cette deux manières, soit il peut représenter l'Église universelle, par exemple lorsqu'il célèbre les cérémonies des obsèques, c'est le cas d'un prêtre, en ce cas, comme c'est celui au nom ou à la place duquel est faite une action qui est censée la faire, il en résulte que les suffrages d'un prêtre, même si les pécheurs, sont utiles aux défunts. Si un prêtre en état de péché mortel, hélas, peut exister, si un prêtre en état de péché mortel offre le Saint-Sacrifice de la messe pour une âme du purgatoire déterminée, puisque c'est son intention de la messe qu'il offre, eh bien, cette âme va obtenir des grâces à cause de la valeur du sacrifice de la messe, qui a une valeur infinie, quelle que soit la personne qui l'offre. Donc, si le prêtre offre le Saint-Sacrifice de la messe, parle d'un prêtre en état de péché, c'est l'exemple que donne saint Thomas, offre une messe en état de péché mortel, la messe reste un sacrifice rédempteur. Ça reste le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, et donc la messe a une valeur par elle-même. Si on tombe dans le protestantisme, ces protestants qui pensaient, Luther pensait qu'un prêtre en état de péché mortel, les sacrements qu'il donnait étaient invalides. Non, c'est totalement faux. C'est pour ça, par exemple, qu'un païen qui baptise un enfant en ayant l'intention de faire ce que la maman de l'enfant veut, le baptême est parfaitement valide. Imaginez une maman qui a un enfant à l'hôpital, à la maternité, et qui dit au médecin accoucheur ou à la sage-femme ou à l'infirmière, écoutez, je suis catholique, je tiens absolument, si pendant l'accouchement mon bébé manifeste des signes de souffrance à cause de l'accouchement et qu'il y a un petit risque de mort de mon enfant, je vous supplie tout de suite, vous prenez un peu d'eau, un verre d'eau, vous versez l'eau sur la tête de l'enfant en disant je te baptise, si tu es vivant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si l'infirmière ou la sage-femme est une païenne ou une non-catholique, eh bien, le baptême est valide. Le pécheur peut remplir donc le rôle d'instrument, mais si cet instrument était en état de grâce, ses suffrages n'en voudraient que mieux, puisque la valeur en serait doublée. Donc, si un pécheur prie pour les âmes du purgatoire, il peut obtenir certains résultats, mais s'il était en état de grâce, ce pécheur, il est évident que ses prières pour les âmes du purgatoire auraient beaucoup plus de valeur, seraient beaucoup plus fortes. Donc Dieu... ça c'est une très belle phrase de saint Thomas, « Dieu ne réserve pas sa bonté pour les justes, mais il l'étend aux pécheurs, non pas à cause de leur mérite, mais à cause de sa miséricorde. » La phrase connue, « Si quelqu'un va en enfer, c'est de sa faute. Si quelqu'un va au ciel, c'est la grâce, c'est grâce à toute puissance et à la miséricorde du bon Dieu. » Toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui les provoque en nous. Et toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est nous qui les provoquons. Je répète cette phrase que j'aime beaucoup. Dieu ne réserve pas sa bonté pour les justes, mais il l'étend aux pécheurs. Non pas à cause de leur mérite, mais à cause de sa miséricorde. Pourquoi ? Parce que la miséricorde du bon Dieu s'exerce d'abord à l'égard des pécheurs. Pourquoi ? Parce que les pécheurs ont plus besoin d'utiliser la miséricorde du bon Dieu qu'une âme qui est habituellement en état de grâce. Ce sont des choses très importantes et très consolantes pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit d'ailleurs expressément dans son évangile, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. Alors, on avance dans cette question 71, donc sur le suffrage des âmes, pour les âmes du purgatoire, qui est article 4 de la question 71 du supplément, est-ce que les suffrages des vivants pour les défunts sont utiles aussi pour les auteurs, c'est-à-dire les auteurs de ces suffrages, pour ceux qui prient? Est-ce que ça vous sert aussi à quelque chose pour vous? Donc, saint Thomas d'Aquin explique en faisant une distinction, voilà ce qu'il dit. Le caractère satisfactoire, en tant que le suffrage expie la peine en offrant pour elle une espèce de compensation. À ce point, je répète, dans l'œuvre de suffrage, c'est l'aide aux âmes du purgatoire. On peut considérer deux caractères. D'abord, le caractère satisfactoire, en tant que le suffrage expie la peine en offrant pour elle une espèce de compensation, et à ce point de vue, le suffrage devient la propriété du défunt qui en bénéficie et sert à payer sa dette à lui uniquement. Mais, le caractère méritoire, ce suffrage, si vous voulez, a un deuxième caractère, il a un caractère méritoire par rapport à la vie éternelle. C'est la charité, son inspiratrice, qui le donne au suffrage. Ainsi considéré, celui est utile non seulement aux défunts, mais encore aux vivants. C'est-à-dire que la personne vivante, membre de l'Église militante, qui prie pour un membre de l'Église souffrante, fait un acte de charité. Et comme Dieu ne donne, laisse pas un acte de charité fait sans récompense, donc cette personne, ici-bas, qui prie pour les âmes du purgatoire, va obtenir une augmentation des grâces dont il a besoin par cette prière pour les âmes du purgatoire. Alors, est-ce que les suffrages sont utiles aux damnés ? Je vous l'ai déjà dit, la réponse est évidemment négative parce que les damnés ne sont plus membres de l'Église. Ils ne sont plus membres de l'Église d'ici-bas. Et donc, on ne peut plus aider les damnés qui sont en enfer. Donc, voilà le texte de Saint Ignace, de Saint Thomas d'Aquin, pardon. Il cite Saint Augustin, à ceux qui meurent sans la foi, qui opèrent par la charité et sans ces sacrements, tous les devoirs religieux que leur rendent leurs proches ne servent de rien. Hein? Parce qu'on n'a plus la charité, on n'a plus rien. C'est ça qui est terrible dans les peines de l'enfer, c'est qu'on sort définitivement de la charité de Dieu aussi longtemps que Dieu est Dieu. Il n'y a donc aucune diminution possible, ni de gloire des uns au ciel, ni de la peine des autres en enfer. Parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Donc, il faut dire sans restriction que les suffrages sont inutiles aux damnés, que l'Église les exclut de ses prières, comme le déclarent toutes les autorités de l'Église. Alors, avançons. Est-ce que ces suffrages, c'est l'article 6 de la question 71 du supplément, est-ce que ces suffrages sont utiles aux âmes du purgatoire ? Saint Thomas répond positivement. Les peines du purgatoire ont pour fonction, dit-il, de parfaire la satisfaction pour le péché, donc la réparation qui n'a pas été complétée en cette vie. Or, les œuvres satisfactoires des uns peuvent servir à d'autres vivants ou morts. Donc, les suffrages des vivants sont utiles pour les âmes du purgatoire. Alors, ces suffrages peuvent se manifester de différentes façons. Certainement, un des moyens les plus efficaces pour aider les âmes du purgatoire, c'est de faire offrir le saint sacrifice de la messe pour ces âmes du purgatoire. Cette âme du purgatoire, parce que le saint sacrifice de la messe ayant en lui-même une valeur infinie, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, un tel suffrage a donc quelque chose d'infini qui va profondément aider, selon la volonté du bon Dieu, les âmes qui sont au purgatoire. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, comment peut-on être sûr que la personne pour laquelle je prie, qui est morte, qui est décédée, est au purgatoire ? On n'en sait rien. C'est vrai qu'on n'en sait rien. Donc c'est un peu conditionnel. C'est-à-dire que si l'âme pour laquelle vous priez déjà au ciel, eh bien ces prières que vous offrez seront utilisées pour quelqu'un d'autre. Si cette âme pour laquelle vous priez est malheureusement en enfer, on ne peut rien faire pour elle, donc ces mêmes prières seront utilisées pour quelqu'un d'autre. Mais si cette âme est au purgatoire, le bon Dieu va appliquer ses prières à l'âme du purgatoire en question. Alors, on voit bien que saint Thomas explique tous les cas. Article 7 de la question 71 du supplément, est-ce que ces suffrages sont utiles aux enfants morts sans baptême ? Alors, voilà la réponse, toujours la même. Les suffrages sont inutiles à ceux qui ont quitté ce monde sans avoir la foi que perd par la charité. La charité est donnée par le baptême. Donc un enfant, une âme qui n'est pas baptisée, n'a pas, un âme de bébé qui n'est pas baptisé, n'a pas la charité, et donc ne peut pas utiliser les suffrages pour elle. C'est pour ça qu'un enfant, un bébé qui meurt sans baptême, n'est pas responsable, n'a pas le péché personnel sur la conscience, et donc va au limbe des enfants, j'ai déjà expliqué. Il faut donc conclure, dit saint Thomas, à l'inutilité des suffrages pour les enfants morts sans baptême. Alors évidemment, les modernes ont du mal à comprendre ça, et même parfois des catholiques, en disant, monsieur l'abbé, c'est pas normal, moi j'ai une fausse couche, je prie pour mon enfant, je voudrais être sûr que je retrouve mon bébé une fois que je serai au ciel. Mais madame, votre bébé n'est pas baptisé, et à cause de ce manque de baptême, le fait qu'il n'est pas baptisé, il ne possède pas la charité, il ne peut pas y avoir au ciel quelqu'un qui n'a pas la charité. Hein. Donc ce bébé ne sera pas malheureux, il a un bonheur philosophique, j'ai déjà expliqué, il vaut beaucoup mieux que ce bébé soit au limbe avec un bonheur philosophique, plutôt que malheureusement d'avoir vécu, peut-être que s'il avait vécu, ben, il aurait très mal tourné. J'ai connu beaucoup de cas comme ça, de mamans qui ont absolument voulu avoir un enfant. Je leur avais dit, mais madame, c'est très bien d'avoir un désir d'enfant, c'est normal, c'est logique, ça fait partie de la fibre maternelle, la fibre naturelle d'une femme, mais il faut dire au bon Dieu, je dis toujours ça quand les préparations au mariage, je dis, quand vous allez vous marier, dites bien, mon Dieu, j'aimerais beaucoup avoir des enfants, j'espère que vous nous en donnerez. Cependant, l'important, c'est que ces âmes d'enfants que vous allez me confier, si vous m'en donnez, aillent au ciel. Vous qui savez tout, mon Dieu, si vous savez que l'âme de mes enfants ne se sauvera pas, que l'enfant que je vais avoir va se damner, alors, mon Dieu, ne me donnez pas d'enfant. Je préfère ne pas avoir d'enfant plutôt que de me rendre compte que l'âme de ces enfants est partie en enfer parce que l'enfant est mort en état de péché mortel. Donc, il faut conclure, dit saint Thomas, à l'inutilité des suffrages pour les enfants morts sans baptême. Encore une fois, n'utilisez pas votre cœur pour comprendre ces articles de saint Thomas, utilisez votre intelligence avec la lumière de la foi. Article 8, question 71 du supplément, est-ce que ces suffrages sont utiles de quelque manière que ce soit pour les âmes qui sont déjà au ciel? J'ai déjà répondu à cette question. Donc, voyons la réponse de saint Thomas. J'espère que c'est la même que la mienne. Puisque les saints du ciel ne connaissent plus aucune indigence, enivrés qu'ils sont des délices de la maison du Seigneur, ils n'ont que faire des suffrages. Ils sont déjà englobés dans l'amour définitif éternel de Dieu, dans la gloire de Dieu, ils n'ont plus besoin de nos prières. Article 9, question 71 du supplément. Est-ce que les prières de l'Église, le saint sacrifice de la messe et les aumônes sont les suffrages les plus utiles, les seuls utiles ou les plus utiles aux défunts? Donc, voyons ce que dit saint Thomas. Donc, voilà la phrase clé. La condition de l'utilité des suffrages, c'est l'union de charité, la direction d'intention entre les vivants et les défunts. Les œuvres les plus utiles sont donc celles qui contiennent davantage de l'une ou de l'autre. À la charité se rapporte principalement le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui est le sacrement d'unité entre les membres de l'Église, puisqu'il contient celui qui fait l'unité et la solidité de l'Église tout entière, c'est-à-dire le Christ. L'Eucharistie est donc comme la source ou le lien de la charité. Pourquoi ? Parce que la Sainte Eucharistie ne comprend pas, ne donne pas simplement la grâce, mais l'auteur même de la grâce. La Sainte Eucharistie, donc, quant aux effets de celle-ci, le principal, c'est l'aumône. Si donc on envisage les suffrages au point de vue de la charité, les deux qui ont le plus de valeur, c'est le sacrifice eucharistique et l'aumône. Hein? Rappelez-vous, ces trois éléments dont parlent très souvent les pères de l'Église, l'aumône, le jeûne, la prière, pour rattraper les péchés commis à cause des trois concupiscences. Hein? L'aumône, le jeûne, la prière. Le jeûne, c'est pour rattraper les concupiscences, les péchés et la concupiscence de la chair. L'aumône pour attraper les péchés commis par la concupiscence des yeux et la prière pour attraper les péchés commis par la concupiscence de l'orgueil. Donc, les deux actes qui ont le plus de valeur au point au niveau de la charité, c'est le sacrifice eucharistique, la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe et l'aumône. Mais la première place au niveau de l'intention revient à la prière, dit saint Thomas d'Aquin. La Sainte Eucharistie est le symbole de l'union entre tous les membres de l'Église. Aussi, en vertu de l'œuvre opérée elle-même, son efficacité est communicable, ce qui n'a pas lieu pour les autres sacrements. Alors, je vous rappelle cette phrase magnifique de saint Thomas d'Aquin, qui résume l'enseignement de l'Église sur la Sainte Eucharistie. Le sacrement de la Sainte Eucharistie est le sacrement de l'unité entre les membres de l'Église, puisqu'il contient celui qui fait l'unité, la solidité de l'Église tout entière, c'est-à-dire le Christ. Donc la Sainte Eucharistie est la source, le lien de la charité. Alors, Saint Thomas finit cet article en disant que l'infériorité d'une messe qui n'est pas celle des morts peut être compensée par la dévotion plus grande de celui qui la célèbre ou la fait célébrer, comme aussi par l'intercession du saint dont les suffrages y sont plus spécialement sollicités. Lorsqu'on offre le saint sacrifice de la messe, par exemple pour un défunt, en supposant que cette âme pour laquelle on prie est au purgatoire, il y a une gloire à cause de la messe qui est une gloire substantielle, qui est la même pour toutes les messes. La messe étant par elle-même un acte d'une valeur infinie, le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Mais il peut y avoir une gloire accidentelle qui va être augmentée par la dignité de la personne qui célèbre la messe ou par le type de messe qui est offerte, par exemple une messe de requiem spécialement faite pour les âmes des purgatoires, ou encore par la dignité du saint dont on célèbre la fête ce jour-là. Il est évident que la messe du saint curé d'Ars ou la messe de l'abbé Lafitte, par leur valeur propre, ont la même valeur. Cependant, la messe célébrée par le saint curé d'Ars apporte plus de gloire accidentelle à cause de la sainteté de le saint curé d'Ars, qui est malheureusement, enfin qui est, n'est pas celle de l'abbé Lafitte, hélas pour lui. Alors, est-ce que les indulgences accordées par l'Église sont utiles aux défunts ? Vous savez qu'il y a des indulgences propres qui sont accordées par l'Église pour les défunts, notamment le jour des morts, le 2 novembre, et ensuite pendant tout l'octave, aussi le jour de la Toussaint, 1er novembre, et ensuite pendant tout l'octave de la Toussaint, il y a des indulgences spéciales pour les défunts qui sont accordées. Donc une indulgence peut être utile indirectement à celui en faveur duquel elle est gagnée par un fidèle qui accomplit l'œuvre prescrite. Mais cette utilité dépend de la formule même de l'indulgence. Donc, puisque l'Église a le pouvoir de faire participer pendant leur vie les fidèles au mérite commun, source des indulgences, il n'y a aucune raison de lui refuser celui de les y faire participer après leur mort. Donc on peut obtenir des indulgences pour les âmes du purgatoire. Alors, est-ce que la cérémonie des obsèques est utile aux défunts ? En tant que cérémonie extérieure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Saint Thomas va répondre négativement. Pourquoi ? Parce qu'il explique bien que, ici de Saint Augustin, tout ce que l'on fait pour le corps des défunts ne leur sert de rien pour la vie éternelle, mais n'est qu'un devoir d'humanité. Celui qui donne la raison, la célébration des funérailles, la condition de la sépulture, la pompe des obsèques sont une consolation pour les vivants plutôt qu'un secours pour les défunts. Si par exemple, j'ai eu pour preuve que si vous célébrez une messe de requiem pour les défunts, mais que ce défunt est malheureusement déjà en enfer, eh bien, votre messe de requiem, elle ne fera rien du tout pour le défunt, parce qu'il est déjà en enfer. Si le défunt, l'âme de ce défunt pour laquelle vous offrez la sainte messe est déjà au ciel, eh bien, la messe ne va rien faire du tout, puisque cette âme est déjà au ciel, n'a plus besoin des mérites de la sainte messe. Par contre, l'âme, la sainte messe offerte va être utile au défunt, à l'âme du défunt, s'il est purgatoire, mais les fonctions extérieures, la pompe extérieure de la messe des défunts est une consolation, non pas pour les morts, mais pour les vivants. C'est ce que dit saint Thomas. Il donne comme exemple le mot de monument pour les monument, un caveau pour les morts dans les cimetières catholiques ou même non catholiques. Et bien, ce monument, c'est de là que vient le nom de monument. Ça vient de monere, avertir, de mentem, l'esprit, qui fait penser à quelqu'un, à quelque chose. Donc, le monument nous rappelle la nécessité de prier pour les âmes du purgatoire. Alors, est-ce que les suffrages spécialement destinés à un défunt sont plus utiles à lui qu'aux autres ? C'est la question 71, article 12 du supplément de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce que dit saint Thomas. L'utilité des suffrages dépend de deux choses. D'abord de l'union de charité qui fait que tous les biens sont communs à tous. À ce point de vue, là, ces suffrages destinés à un défunt sont cependant plus utiles à un autre à qui la charité est plus grande. Mais elle dépend, cette utilité des suffrages dépend en second lieu de la direction d'intention par lesquelles les œuvres satisfactoires passent d'un vivant à un défunt. Et à ce point de vue, il est hors de doute que les suffrages destinés à un défunt lui sont non seulement plus utiles qu'aux autres, mais ne le sont qu'à lui. Lorsque une messe est offerte pour un défunt qui est au purgatoire, donc l'âme de ce défunt va pouvoir utiliser directement les fruits de cette messe. qui est d'abord offerte pour tel défunt. Mais donc, lorsque le prêtre offre une messe pour une intention déterminée, eh bien, l'intention principale est l'intention de ce défunt pour laquelle on offre le sacrifice de la messe. Cependant, au memento des morts, au memento des vivants, eh bien, le prêtre va prier aussi pour toutes les âmes du purgatoire et pour d'autres personnes pour lesquelles il souhaite prier ici-bas sur la terre. Donc, toutes ces gens vont bénéficier d'une partie de l'aide accordée par la Sainte Messe. Alors, saint Thomas d'Aquin continue d'expliquer les choses en disant que si donc le suffrage destiné à plusieurs défunts était aussi utile à chacun que s'il lui était uniquement destiné, il semble que l'Église n'aurait pas dû instituer des messes ou des prières à l'intention spéciale des défunts, mais que les unes et les autres dussent toujours être offertes pour tous les défunts, ce qui est faux. Donc, si l'on considère dans les suffrages la valeur provenant de la vertu de charité qui unit tous les membres de l'Église, dans ce cas-là, dit saint Thomas d'Aquin, les suffrages destinés à plusieurs, attendez que je reprenne, que je ne dise pas de bêtises là, les suffrages, c'est ça, destinés à plusieurs défunts donnent à chacun autant que s'ils étaient destinés à lui seul, car la charité n'est pas diminuée, mais plutôt augmentée par la diffusion de ses bienfaits, et la joie, elle aussi, s'accroît en se communiquant. Les biens de Dieu sont sans limite, si vous voulez, sont sans repentance, dans le sens que le bon Dieu, étant un être infini, me peut donner de façon infinie toutes les grâces que le bon Dieu donne, ne diminue en rien la gloire que Dieu a de lui-même. Si l'on considère au contraire le suffrage comme une satisfaction dont la valeur est transmise aux défunts par l'intention des vivants, il faut répondre que le suffrage destiné à un seul défunt lui est plus utile que s'il lui était destiné en même temps qu'à d'autres. D'où l'important de ces dévotions aux âmes du purgatoire, de prier pour les âmes du purgatoire. Alors, je rajoute quelques détails qu'on trouve ici dans la somme. Donc les suffrages spéciaux ajoutés au suffrage commun sont plus utiles à un défunt que ces derniers seuls. Alors là, je passe assez vite. Donc il y a une phrase importante à la fin de la question 71. Par un effet de la miséricorde divine, on peut croire cependant que le surplus des suffrages particuliers surabondants pour ceux auxquels ils sont destinés est appliqué à d'autres défunts qui sont privés de tels suffrages et qui ont besoin de secours. Parce que Dieu est juste, il n'exige de la faiblesse que ce qu'elle peut donner. Parce qu'il est sage, il trouve le moyen de combler les indigences. Et ce moyen, c'est transférer ce que les uns ont de trop à d'autres qui n'ont pas assez. Donc, imaginez que beaucoup de messes soient offertes pour une personne déterminée. Ben Dieu peut affecter certaines de ses grâces à d'autres personnes selon sa volonté. Il va d'abord les affecter à la personne pour laquelle les messes sont offertes, mais il peut aussi choisir d'affecter ses grâces à d'autres personnes. Alors, nous avançons encore un petit peu de temps. Question 72. Est-ce que la prière des saints qui sont au ciel, qui sont déjà au ciel? Donc, d'abord, question 72 du supplément, article 1er. Est-ce que les saints connaissent les prières que nous leur adressons? Est-ce qu'on a connaissance de ces prières? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Nos prières, leur sont connues. Alors ensuite, il va expliquer un petit peu les choses. Voilà ce qu'il dit. Il est donc évident que les saints connaissent ce qui est exigé pour cet office. Par conséquent, ils voient dans le Verbe les vœux, les prières, les pratiques pieuses des humains qui implorent leur secours. Donc ils sont au courant de ce qui se passe par la permission de Dieu. Donc on peut demander aux saints de prier pour nous. Ils sont au courant. C'est une coutume générale dans l'Église que d'implorer les saints, par exemple en récitant leur litanie ou en les priant d'une façon tout particulière. C'est pour ça que les messes sont offertes la plupart du temps en l'honneur de tels saints particuliers. Ce n'est point par impuissance que Dieu se sert des causes secondes, mais pour une plus grande perfection de l'univers et une communication plus variée du bien divin, du fait que certains êtres reçoivent de Dieu non seulement d'être bons en eux-mêmes, mais d'être cause que d'autres le soient. Donc, pourquoi? Parce que les saints au ciel sont des intercesseurs auprès de Dieu et nos médiateurs. Ils servent de pont entre Dieu et nous. Et évidemment, ils sont beaucoup mieux placés que nous pour obtenir ces grâces. Est-ce que ces prières des saints en notre faveur sont toujours exaucées? Se pose la question, comme question saint Thomas d'Aquin. Donc là, c'est le supplément, question 72, article 3. Est-ce que ces prières des saints au ciel sont toujours exaucées? Donc, saint Thomas explique que c'est la coutume de l'Église de se recommander fréquemment aux prières des saints. Il peut y avoir en eux-mêmes un empêchement, cependant, de recevoir les grâces qu'elles obtiennent. Les saints ne demandent que ce qu'ils veulent et ils ne veulent que ce que Dieu veut. Or, ce que Dieu veut absolument s'accomplit toujours, à moins qu'il ne s'agisse de cette volonté que nous appelons antécédente, selon laquelle, par exemple, il veut le salut de tous les hommes qui ne s'accomplit pas toujours. Et donc, pas étonnant que ce que les saints veulent de cette même espèce de volonté ne s'accomplisse pas tout, non plus toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux volontés antécédentes. Dieu veut le salut de tous les hommes, deux volontés conséquentes. En fait, seuls les hommes qui mourront en état de grâce obtiendront la gloire du salut, et pas les autres. La volonté suprême du Créateur remporte toujours la victoire sur tous, surtout, car il, ces âmes qui sont au ciel contemplent toujours la volonté divine et ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Donc les âmes au ciel ne veulent que ce que Dieu veut. Donc, ils ne le demandent jamais non plus, c'est pourquoi leurs prières sont toujours exaucées dans ce sens. Donc, les âmes du ciel, de l'Église triomphante, ne demandent à Dieu que ce qui plaît à Dieu. Ils savent ce que Dieu veut, d'une certaine façon. Dieu veut que soit accompli par la prière, par les prières des saints, cela même que les saints voient voulu par Dieu. Question 73, les signes précurseurs du jugement. Alors ça, il y a encore des choses là bien utiles à posséder pour bien comprendre certaines choses. Entre autres, pour répondre à une objection qu'on entend, à mon avis, beaucoup trop souvent, des gens qui disent tout le temps, nous sommes à la veille de la fin du monde, nous sommes à la fin des temps. Eh bien, il faut méditer les signes de la fin des temps, les signes qui annoncent la fin des temps, donnés par l'Église. Vous verrez que ces signes ne sont pas tout cela. Entre autres, je vais expliquer avec le texte de saint Thomas, un des signes que donne saint Thomas d'Aquin, que donne la Sainte Église de l'annonce de la fin du temps, la fin des temps, c'est la conversion du peuple juif. Bon, on n'en voit pas encore la couleur, ni même le début. Donc il manque bien des signes. On est peut-être à la fin d'un temps, mais on ne peut en aucun cas dire qu'on est à tout proche de la fin du monde. N'oubliez pas que au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait déjà des disciples de notre Seigneur qui étaient persuadés que la fin du monde allait arriver. Elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Beaucoup de gens, quand ils sont arrivés à la fin du premier millénaire, étaient persuadés que la fin du monde arriverait à la fin du premier millénaire. Donc ne nous lançons pas justement dans ces tentations de fixer la date de la fin du monde. Nous ne la connaissons pas, nous ne savons pas du tout si nous sommes à la fin d'un temps, à la fin des temps. On est sans doute à la fin d'un temps, ça c'est sûr, mais on n'est pas forcément à la fin des temps. Vous allez me dire, même sur l'abbé, ça ne peut pas continuer comme ça. La descente en enfer est déjà tellement, tellement bien, tellement ancrée qu'on ça ne peut pas continuer de descendre. On n'en sait strictement rien. Est-ce que le bon Dieu va attendre que la coupe soit encore plus pleine? C'est possible, on ne sait pas. Les Américains avaient une belle expression que j'aimais bien. Ils disaient, il va falloir quand même que le bon Dieu fasse quelque chose assez rapidement, parce que sinon, il va falloir qu'il demande pardon aux habitants de Sodome et Gomorre. Vous savez qu'il y a deux villes de Sodome et Gomorre. Donc, ont été détruites par Dieu. Actuellement, il y a à la place des deux villes de Sodome et Gomorre la mer morte en Palestine, et que donc cette mer morte est située à l'endroit exact où étaient les deux villes de Sodome et Gomorre qui ont été anéanties par le feu et le soufre à cause du péché, justement, qu'on appelle de sodomie à cause du nom de la ville. Parce que ces deux villes étaient remplies justement de ce péché qui crie vengeance à la face de Dieu. Alors, quels sont les signes précurseurs du jugement? Est-ce qu'il y aura d'abord ces signes précurseurs de l'avènement du souverain juge? Et donc, saint Thomas va citer saint Luc, qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais saint Thomas a fait bien remarquer qu'il est difficile de savoir quels seront exactement ces signes. Donc, l'avènement du souverain juge sera précédé de signes multiples destinés à avertir les hommes de se préparer au jugement et à soumettre les cœurs au juge qui va venir. Mais il est difficile de savoir quels seront ces signes. Alors, il y a plusieurs textes des pères de l'Église sur le sujet, mais ces textes ne sont pas identiques. Le soleil et la lune doivent-ils, par exemple, réellement cesser de briller à l'époque du jugement, c'est-à-dire à la fin des temps? Donc, saint Thomas va répondre en disant qu'il est possible que le soleil, la lune et les astres s'obscurcissent simultanément ou les uns après les autres par un miracle de la puissance divine destiné à frapper de terreur les humains. Ce qui est certain, c'est que les vertus des cieux seront ébranlées au jugement général. Les étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées. C'est le texte et le discours eschatologique de saint Matthieu. Alors, saint Thomas va parler de la conflagration de l'univers à la fin des temps. Alors, nous verrons cela au prochain cours. Nous en sommes à la question 74 du supplément. Il reste encore beaucoup parce que il y a 99 questions. Le traité sur les fins d'année va jusqu'à la question 99. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice et Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.